Bon réveil à tous. Suite des matins avec le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. L'épouse du patron de la majorité à l'Assemblée nationale est nommée à la Française des Jeux, tout juste autorisée à être privatisée. Faut-il y voir un mélange des genres, un conflit d'intérêts? Nous essaierons de comprendre cette affaire dans un instant. Nous interrogerons aussi un membre du groupe des experts de la sûreté nucléaire. Hier, EDF a mis en garde. Il faut refaire des travaux sur l'EPR de Flamanville. EDF a été mis en garde. Un chantier plus coûteux donc et beaucoup plus long que prévu. Au Soudan, le ministre de la Défense est nommé à la tête du Conseil militaire de transition. Le portrait de cet homme, menacé de poursuites pour crimes de guerre notamment, dans ce journal. Nous irons ensuite à Bruxelles. L'Union européenne accepte d'ouvrir des négociations commerciales avec les États-Unis. Un compromis qui ne plaît pas du tout à Emmanuel Macron, vous le comprendrez. Et puis, zoom sur l'agenda de la presse, l'agence de presse lancée par Viktor Orban pour les élections européennes. Une agence de presse partielle basée à Londres, et ce n'est pas un hasard. Après ce journal, dans son billet politique, Frédéric Seitz reviendra sur un terme que l'on croyait quasiment disparu, le protectionnisme. Il fait son grand retour dans la campagne des élections européennes. C'est une nomination qui passe assez mal. Nous avons appris hier soir que l'épouse de Gilles Legendre, président du groupe de La République En Marche à l'Assemblée nationale, que son épouse a été nommée directrice de la communication à la Française des Jeux. Un choix fait mardi dernier, soit deux jours avant que les députés de l'Assemblée ne votent la loi Pacte qui autorise la privatisation du groupe La Française des Jeux. Que faut-il en penser, Stéphane Robert ?
Il n'y a rien de choquant en soi au fait que Raphaël Rabatel soit nommée directrice de la communication de la Française des Jeux. La communication, c'est son domaine. Elle a déjà précédemment exercé cette même fonction à Gaz de France, au groupe de Co et à la Caisse nationale des caisses d'épargne. Seulement, elle est aussi l'épouse de l'actuel président du groupe En Marche à l'Assemblée, Gilles Legendre. Et le fait que les députés viennent de voter la loi Pacte, qui autorise la privatisation du groupe Française des Jeux, offre l'exemple d'un potentiel mélange des genres. Alors que le Premier ministre Édouard Philippe affirmait pas plus tard que mardi dernier, devant ces mêmes députés, que ce genre de pratique appartenait au passé.
La première exigence, elle prend la forme d'un mur de défiance qui sépare beaucoup de Français de ceux qui les représentent et influe sur leur vie. Les pratiques qui ont suscité ces réactions ont cessé depuis longtemps. Le financement de la vie politique est considérablement assaini et il est injuste d'incriminer les élus d'aujourd'hui pour les errements d'hier.
Plusieurs élus de l'opposition ont publié hier soir des réactions indignées sur les réseaux sociaux, Twitter et Facebook. Il est vrai que la concordance de temps entre cette nomination et la privatisation de la FDJ pose un certain nombre de questions. Mais le plus gênant pour le pouvoir exécutif est peut-être la résonance que pourrait avoir cette affaire dans l'opinion publique. Les Français sont particulièrement sensibilisés depuis quelques jours aux privatisations en cours. Avec ce référendum d'initiative partagée lancé par 250 parlementaires pour empêcher la privatisation d'Aéroports de Paris, car ils ne comprennent pas vraiment pourquoi l'exécutif a décidé de confier coûte que coûte à des actionnaires privés la gestion d'un actif particulièrement rentable.
Voilà maintenant un projet qui paraît difficilement rentable tant il coûte cher. La mise en service de l'EPR de Flamanville prendra très certainement un nouveau retard. L'IRSN, l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, estime que la sécurité de cette EPR n'est pas assurée en l'état. EDF doit réparer 8 soudures très importantes, difficiles d'accès. Cela aura un impact sur le coût, déjà plus de 11 millions d'euros. Un impact aussi sur le délai du chantier pour y Marignac, membre du groupe des experts de la sûreté nucléaire, cela peut être très long.
On parle d'un délai en termes d'années, très clairement, puisque les opérations nécessaires à cette réparation, c'est totalement inédit, sont des opérations très délicates. C'est traverser d'enceinte, donc avec les tuyauteries où sont les soudures en cause, sont des traversées qui doivent par ailleurs assurer une étanchéité de l'enceinte. Hein, ça fait partie évidemment de la sûreté, qui doivent être résistantes au séisme. Ça veut dire qu'il y a tout un tas de dispositifs autour de la tuyauterie elle-même qui risquent d'être endommagés par ces opérations de réparation. Donc il faut prendre beaucoup de précautions. Ça veut dire beaucoup d'études de qualification et de délai. On parle effectivement à minima de 2 ans, probablement davantage.
Et l'autorité de sûreté nucléaire doit rendre un avis à propos de ce nouveau nouveaux chantiers d'ici l'été. Elle suit généralement l'avis de l'IRSN. La décision de la Cour d'appel de Lyon est un message au gouvernement, selon l'agriculteur Paul François. Il a gagné hier son procès contre Monsanto. La firme américaine est reconnue responsable des troubles dont se plaint l'agriculteur, et ce depuis qu'il a inhalé un herbicide de la firme. Ce dernier, l'agriculteur Paul François, appelle les politiques à prendre leurs responsabilités concernant l'utilisation des pesticides en France. Notons aussi des milliers de retraités qui étaient mobilisés hier dans le pays pour défendre leur pouvoir d'achat. C'était leur 13e journée d'action depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron. L'éviction d'Omar El-Béchir au Soudan n'a pas calmé la colère populaire, car en lieu et place de ce président qui a dirigé le pays d'une main de fer pendant 30 ans, à sa place donc, l'armée a pris le pouvoir hier. L'ONU, Washington, Bruxelles demandent une transition qui respecte les aspirations démocratiques des Soudanais, c'est-à-dire qui intègre les civils. Ce matin pourtant, on en est loin, car il est prévu qu'un conseil militaire de transition prenne la main pendant 2 ans, et l'on sait déjà qui va le diriger. Claude Guibal, nous l'avons vu et entendu.
Cet homme qui s'est exprimé hier devant les caméras de la télévision nationale, tous les Soudanais le connaissent. Le ministre de la Défense, Awad Mohamed Ibn Aouf, pas vraiment le militaire, que les civils espéraient voir à la tête de la transition qu'il réclamait pourtant. Les manifestants auraient souhaité des figures plus consensuelles que cet homme, jusqu'à peu considéré comme un très proche d'Omar al-Béchir, ancien chef des renseignements militaires et sur lequel pèse également la menace de poursuite pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité dans le cadre du conflit au Darfour. Autour de lui, une junte qui va donc administrer le pays pendant une transition de 2 ans. Pour les Soudanais, la crainte, c'est que ce ne soit pas une rupture avec le régime d'Omar al-Béchir, bien au contraire, plutôt la préservation d'un système où on aura coupé une branche morte pour mieux préserver les intérêts de l'armée. L'armée qui siffle ainsi la fin de la récréation et demande, en prenant le pouvoir, aux civils de rentrer chez eux.
Un civil qui brave le couvre-feu. Hier soir encore, ils étaient des milliers à se rassembler devant le quartier général de l'armée soudanaise à Khartoum. En Algérie, la rue entend, elle, se mobiliser contre Abdelkader Ben Salah. Lui a pris la place du président Abdelaziz Bouteflika la semaine dernière. Et aujourd'hui, c'est le premier vendredi de manifestation depuis l'annonce d'une présidentielle. Elle sera organisée dans le pays le 4 juillet prochain. Quelques mots de la sonde spatiale israélienne, la première du genre pour le pays. Elle devait explorer la Lune, mais elle s'est finalement écrasée au dernier moment cette nuit. Une panne de moteur a priori. Julian Assange sera-t-il bientôt extradé vers les États-Unis? La question se pose, en tout cas depuis hier. Le fondateur de Wikileaks a été reconnu coupable par la justice britannique d'avoir violé les conditions de sa liberté provisoire. L'Australien avait été interpellé un peu plus tôt dans les locaux de l'ambassade à Londres, ambassade d'Équateur. Washington l'accuse de piratage informatique et demande son extradition. Julian Assange sera fixé sur son sort le 2 mai prochain. À 8h, passé de 8 minutes sur France Culture, arrêtons-nous à présent sur l'isolement d'Emmanuel Macron sur la scène européenne. Il a annoncé qu'il votera contre l'ouverture de négociations commerciales entre l'Union européenne et les États-Unis, qui ont retiré leur accord, leur signature de l'accord de Paris sur le climat. Le vote aura lieu lundi prochain, mais hier, tous les autres États membres ont approuvé le principe de ces négociations commerciales. Angélique Boin, vous êtes notre correspondante à Bruxelles. Bonjour Angélique.
Bonjour.
Bruxelles espère en fait apaiser les tensions avec Washington.
Oui, la diplomatie des tweets de Donald Trump a fait effet. Depuis des mois, le président américain menaçait de taxer les automobiles européennes, un secteur vital pour l'Allemagne notamment, si ce dossier ne s'ouvrait pas. Les 27 ont donc cédé, mais le mandat qui a été adopté est très restrictif. Pas question pour les Européens de rouvrir le très controversé TTIP, cet accord commercial très large qui avait été négocié entre Bruxelles et Washington, puis suspendu en 2016. On ne devrait discuter que d'échanges de biens industriels. Les services, les marchés publics ou encore l'agriculture sont exclus des discussions selon le projet de mandat validé hier, mais les Américains, eux, ne l'entendent pas de cette oreille. Ils comptent bien évoquer les produits agricoles. C'est donc un point de désaccord qu'il faudra régler. La France ne votera donc pas l'ouverture de ces négociations, vous l'avez dit. Le président Macron a toujours affirmé qu'il refuserait de signer tout accord commercial avec un pays qui ne respecterait pas l'accord de Paris de Paris, sur le climat, question de valeur, dit-on à l'Élysée. Mais la France est très isolée sur cette ligne et les décisions commerciales à Bruxelles se prennent à la majorité qualifiée. Un seul pays ne peut donc pas s'y opposer. Paris espère bien, selon une source diplomatique, trouver des alliés dans le futur Parlement européen pour s'opposer à un accord final qui ne prendrait pas en compte l'enjeu climatique. La signature en grande pompe à la Maison-Blanche n'est donc pas pour demain.
Merci beaucoup Angélique Bouin pour ces précisions. Ce matin, Emmanuel Macron seul sur le dossier commercial, on vient de le comprendre. Presque seul également concernant le Brexit. Il avait bataillé pour imposer son calendrier la nuit dernière. Calendrier finalement trouvé et acté, le Royaume-Uni, rappelons-le, peut sortir de l'Union européenne au plus tard le 31 octobre. Il faudrait, si c'est le cas, organiser des élections européennes dans le pays, le temps de la transition. À cette occasion, les plus extrémistes pourraient en tirer profit au Royaume-Uni, Eric Biegala.
La perspective de devoir organiser des élections donne quelques sueurs froides aux dirigeants britanniques, notamment parce qu'ils anticipent une polarisation de l'opinion qui ferait la part belle aux nationalistes. C'est en tout cas ce que redoutait hier sur les ondes de Radio 4 l'ancien ministre du Brexit, David Davis.
L'élection européenne va tourner au plébiscite pour ou contre le Brexit. Et j'ai peur qu'on voit grossir le mouvement très important pro-Brexit avec Nigel Farage et d'autres. Le scrutin sera difficile.
Et c'est clair que l'enjeu d'un scrutin européen prendra ici en Angleterre d'autant plus de relief à la lumière du Brexit, remarque l'analyste Michel Olliet.
La participation sera la plus importante jamais vue. Les gens sont beaucoup plus intéressés aujourd'hui par les élections européennes qu'ils ne l'ont jamais été. On va avoir le parti de Nigel Farage, le parti du Brexit, qui va présenter pas mal de candidats. Le UKIP va le faire aussi. Ça pourrait être un vrai succès.
Les mouvements nationalistes, en effet, doivent pouvoir réunir tous les pro-Brexit, soit la moitié de la population. Dave et Jerry militent par exemple aujourd'hui ensemble, quotidiennement, pour le Brexit. En fait, c'est ça qui les a réunis.
Moi, j'étais travailliste et moi, conservateur. Jamais plus je ne voterai pour les travaillistes. Aujourd'hui, c'est UKIP.
Je voterai pour n'importe quel mouvement pro-Brexit. Peut-être le UKIP. Ils n'ont jamais dévié de leur route.
Moi, je voterai nationaliste pour les européennes et les autres parce qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est notre indépendance.
Pas encore totalement sûr que des élections européennes se dérouleront effectivement en Grande-Bretagne d'ici un mois et demi. Mais le cas échéant, la droite nationaliste semble bien parti pour y faire un score.
Eric Biegala, notre envoyé spécial à Londres, où se trouve d'ailleurs ce matin Guillaume Erner et ses invités pour discuter de cet état de crise permanent outre-Manche. Nous les retrouverons dans moins de 10 minutes. Avant cela, voici une nouvelle agence de presse internationale qui se lance à l'occasion des élections européennes. Agence de Viktor Orban, le premier ministre nationaliste hongrois qui détient déjà l'audiovisuel public de son pays, ainsi qu'un consortium de près de 500 médias privés. Autant dire que l'objectivité de cette agence pose déjà question. Présentation avec Florence Labruyère.
L'agence de presse lancée par l'équipe de Viktor Orban s'appelle V4, V comme Visegrad, le club des quatre pays d'Europe centrale, Hongrie, Pologne, République tchèque et Slovaquie. Basée à Londres et revendiquant 50 journalistes ainsi que des correspondants dans plusieurs capitales, elle est déjà opérationnelle. Plus qu'une agence, c'est un site web qui publie des articles en anglais et en hongrois. Son ambition, mieux informer le public européen sur l'Europe centrale. Mais ce nouveau média semble surtout diffuser la rhétorique souverainiste, réactionnaire et anti-migrant du gouvernement Orban. Sur la page d'accueil, on y lit ses titres. La menace terroriste et la pression migratoire ne cessent d'augmenter en Allemagne. Ou encore, une nouvelle vague migratoire menace-t-elle l'Europe ? Les articles reflètent la vision du monde de Viktor Orban. Un monde dominé par la peur du grand remplacement, la peur du péril migratoire qui menacerait l'Europe chrétienne. Mais pourquoi baser cette agence de presse à Londres alors qu'elle aurait pu s'implanter à moindre coût dans la capitale hongroise ? Certains observateurs y voient l'influence de Steve Bannon. L'ancien gourou du président Trump est venu plusieurs fois à Budapest et il aurait conseillé à l'équipe hongroise de s'installer à Londres. D'autres commentateurs soupçonnent, sans pouvoir le prouver, une opération de blanchiment d'argent.
Empire médiatique toujours en Pologne pour le grand reportage de la rédaction. Maya Szymanowska s'est intéressée au père Tadeusz Rydzyk, un ultra-catholique, ultra-conservateur. Il officie dans la ville de Turung, à 200 km au nord-ouest de Varsovie. C'est là que ce prêtre a bâti son école supérieure de la culture sociale et des médias. Elle prépare chaque année, grâce aux dons et aux subventions de l'État, des légions de jeunes journalistes aux ordres de ce gourou. Pour donner le change à ce prêtre sulfureux devenu superstar, des associations de femmes s'organisent depuis 4 ans en Pologne. Maya Szymanowska les a rencontrées. Voici ce qu'elle pense notamment d'un média détenu par le père Rydzyk.
Cette radio sert à généraliser le langage de haine. Les propos utilisés sont racistes, xénophobes, homophobes et contre les droits des femmes. Le père directeur bafoue sans arrêt non seulement les droits des femmes, mais de tous les êtres humains en général, et cela en toute impunité.
Ce qui est énervant pour une partie de l'opinion polonaise, c'est que le père Rydzyk est non seulement au-dessus des lois, mais aussi profite d'un empire financier monstrueux. D'où lui vient cette fortune? Pourquoi nous faisons des blagues lors de nos happenings? Parce que c'est un spécialiste pour soutirer de l'argent. Il le soutire à l'État et il en soutire à ses auditeurs. On en parle même avec une certaine admiration. Quel homme d'affaires exceptionnel, quel businessman. Mais ce gars se repaît de la naïveté des gens, de leur besoin d'être sauvés. Alors je pense que c'est moins un homme d'affaires exceptionnel qu'un exceptionnel escroc.
Des propos recueillis par Maya Sinanowska pour le grand reportage diffusé à partir de 17h ce soir sur France Culture. Il est réalisé grâce à Annie Bro et il sera suivi d'un débat autour de Tara Schlegel. Près de 70 migrants ont été débarqués hier soir sur l'île italienne de Lampedusa après avoir été interceptés sur une embarcation par les gardes-côtes. Ils ont déclaré être de nationalité tunisienne et libyenne. Au travail pour leur expulsion, a réagi dans la foulée le ministre italien de l'Intérieur, patron de la Ligue d'extrême droite, Matteo Salvini. La crise migratoire qui touche aussi le continent sud-américain, une photo a marqué les esprits, réalisée par John Moore l'année dernière de l'agence Getty. Elle vient de recevoir le prix de la photo de l'année, le World Press Photo. Il s'agit de l'image d'une petite fille du Honduras en pleurs alors qu'elle vient avec sa mère de se faire arrêter à la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Image si forte qu'elle a contraint l'administration américaine à cesser de séparer les familles de migrants. Revenons en France où le soleil devrait briller sur une large partie du pays. Ce vendredi, il devrait y avoir quelques pluies sur le sud-est. Comptez entre 7 et 9 degrés au nord de la Loire, 11 à 15 degrés au sud ce matin.